Sound Power pour décrypter en musique notre société. Un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris. 93.9 FM et en DAB+.
Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Emile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère?
Bonsoir chers auditeurices, bienvenue dans ce deuxième épisode de Sound Power, votre émission mensuelle musicale et de société sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, on s'intéresse à la musique arménienne et plus précisément à son rôle dans la construction de l'État arménien. Au programme ce soir, en première partie d'émission, on part à la découverte de l'histoire de l'Arménie au fil de ses musiques, des origines jusqu'à nos jours. En deuxième partie, pour l'interview, nous aurons avec nous à distance Taline Termination, historienne spécialiste de l'URSS et du Caucase et professeure à l'INALCO pour discuter de la culture arménienne, des fondations et de l'avenir de l'État arménien. Et nous écouterons également le témoignage du pianiste de jazz Tigran Amassian que j'ai interviewé avant son départ en tournée. Il nous parlera notamment de son dernier album « The Bird of a Thousand Voices ». L'Arménie, petit et jeune État situé auparavant entre les empires russes, ottomans et perses, possède une longue et tumultueuse histoire. Dès l'Antiquité, tous les éléments sont présents pour constituer un État, un territoire, une religion, le christianisme, créatrice de la langue arménienne et vivier pour la culture dans les arts et la littérature. Mais l'Arménie naît d'abord en tant que nation avant de devenir un État. Et la musique prit alors le rôle de gardienne de cette identité nationale à travers les siècles. Alors à quoi ressemble cette musique arménienne? Elle est polyrythmique et polymodale. Et selon plusieurs musicologues, elle n'est ni occidentale ni orientale. Elle détient sa propre sonorité avec ses propres instruments, comme le fameux doudouk, un hautbois en bois d'abricotier. Elle était aussi centrale dans la vie des villages. Pendant le labour des champs, celui qui tenait la charrue débutait une chanson. Et tour à tour, les autres fermiers prenaient le relais et réagissaient aux cris des buffles. Avec l'abandon de la vie rurale au XIXe siècle, la plupart de ces chants ont disparu. Mais on écoute tout de suite cet enregistrement précieux d'un chant de moisson interprété par Arzas Voskanian. Des figures les plus célèbres de la musique arménienne, c'est Aram Khachaturian. Si ce nom ne vous dit rien, je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Aram Khachaturian, c'est bien sûr le compositeur de la danse du sabre du ballet Gayadé. Il est né en 1903 à Tiflis, l'actuelle Tbilissi, capitale de la Géorgie, et est bercé enfant par les chants de sa mère et par le folklore des musiciens de rue. Ses musiques furent pour lui une grande inspiration pour ses œuvres. Pendant la période soviétique, il rendit tout de même hommage à sa culture arménienne avec par exemple ce morceau qu'on va écouter, chanson-poème en honneur des Achougs. Les Achougs sont des bardes, des troubadours qui chantaient l'amour en plusieurs langues et ont enrichi le répertoire avec des colorations orientales. Un des plus connus Achougs, c'est bien sûr Sayat Nova, popularisé par le film de Sergei Parjanov. On écoute chanson poème en honneur des Achougs d'Aram Khatchatourian.
Thank you. Soundpower, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+.
On écoutait à l'instant Krunk de Gomitas. Krunk veut dire grue et raconte l'exil après le génocide arménien que subit Gomitas en 1915. Mais Gomitas est une figure emblématique en Arménie. C'est un prêtre apostolique, compositeur et surtout ethnomusicologue. Avec la menace ottomane qui grandit, il répertoria dès 1899 les chants populaires et liturgiques arméniens. Car à partir du XVIIIe siècle, la musique arménienne s'occidentalisa et fut dénaturée avec des harmonisations polyphoniques. Mais le travail de Gomitas permit de garder ses traces originelles. Sans transition aucune, on fait un bond dans le temps avec un morceau qui réussit à fusionner jazz et éléments de la musique arménienne. On écoute On the Road du groupe Katuner.
kere u yaman garmir katak terere uy 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 yaman garmir katak terere uy 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 yaman gana çacak tekere u yaman gana çacak tekere u yaman
Power, un mardi soir par mois à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 FM et en DAB+.
Face au négationnisme turc, les Arméniens ont conservé la mémoire du génocide grâce aux chansons. Ces musiques transmises par la diaspora arrivèrent dans toute l'Europe et c'est à partir des deuxième et troisième générations que les créations musicales sortent des cercles communautaires et empruntent de nouvelles sonorités. C'est le cas du collectif Metz Bazar qu'on a écouté avec le morceau Burma Digin. Metz Bazar, groupe parisien né en 2012, réunit 8 musiciens d'origine française, arménienne, turque, kurde et américaine. Et on l'entend dans leur musique, ils mélangent ces différents héritages pour former, comme son nom l'indique, un joli bordel musical. Mais j'aimerais revenir sur la diaspora arménienne qui est une question centrale dans la construction de l'État arménien. Comment construire un État où plus de la moitié de sa population ne se trouve pas sur son territoire ? D'abord, les Arméniens sont depuis l'Antiquité répandus à travers le monde, contraints à l'exil face aux invasions tantôt ottomanes, tantôt mongoles, tantôt perses et j'en passe. Mais c'est réellement après le génocide de 1915 que le mot « spluk », qui veut dire « diaspora », fait surface. C'est à ce même moment que se forme une forte mémoire collective et identité nationale. Pour finir la première partie de l'émission, on enchaîne avec Eravor, qui veut dire « loin » en arménien, de Diaspora Dreams. Diaspora Dreams réunit les musiciens Beyrou et Krista Marina, tous deux nés à Los Angeles dans une famille arménienne qui ont fui le Liban. Eravor de Diaspora Dreams. «
Sound Power, l'entrevue du soir.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et pour notre interview, nous recevons aujourd'hui à distance Tallinn Termination. Bonsoir.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Merci à vous. Vous êtes historienne spécialiste de l'URSS et du Caucase et professeure à l'INALCO. Et pour commencer notre discussion, j'aimerais aborder avec vous la République arménienne qui dura peu de temps entre 1918 et 1920, mais qui fut la première expérience étatique contemporaine. Et donc ma question, c'est quelle fondation cette première république posa pour la construction de l'État arménien ?
Alors, vous posez une question extrêmement compliquée. C'est très difficile de simplifier à l'intention de nos éditeurs une histoire à la fois aussi brève sur le plan temporel, mais si compliquée et finalement si inattendue, qui est celle de la renaissance de l'État arménien contemporain, alors que les Arméniens, qui existaient en tant que nation depuis des siècles et des siècles, et en tant que nation, première nation convertie au christianisme, etc., n'avaient plus eu d'expérience d'État, c'est-à-dire de royaume, depuis le Moyen-Âge, depuis le Xe siècle. Il n'y avait plus d'État arménien et donc la nation arménienne s'incarnait principalement dans son Église. Donc la renaissance de l'État arménien contemporain, c'est en fait une sorte de miracle qui s'est produit sur les décombres de la Première Guerre mondiale, qui, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, s'est également traduite pour les Arméniens par une expérience absolument terrible qui est celle du génocide qui se déroule dans l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale en 1915. L'évolution de cette Première Guerre mondiale sur ce front oriental très reculé entre l'Empire ottoman et l'Empire russe a laissé vacant par un grand concours de circonstances qui est notamment la révolution de 1917, l'effondrement de l'Empire russe, puis ensuite la défaite de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Bref, finalement, le choc de ces deux empires finalement leur explosion à l'un et à l'autre a laissé un espace vacant au Caucase. Et dans cet espace vacant sont nés presque, je dirais, enfin, je ne veux pas dire par hasard, mais de manière miraculeuse et parfois d'ailleurs même contre la propre volonté de ces peuples qui se trouvaient là au milieu, sont nées donc ces trois républiques indépendantes, celle de Géorgie, d'Azerbaïdjan et puis enfin la République d'Arménie, qui avait pour particularité d'être née sur un territoire qui était un petit peu excentré. Vous voyez, c'était au Caucase, alors que la plupart des Arméniens étaient dans l'Empire ottoman, mais ils n'y étaient plus puisque le génocide avait eu lieu. Et donc, l'expérience de l'État contemporain s'est déroulée sur ce petit territoire qui était autrefois l'Arménie russe. Et c'est donc ainsi qu'est née cette république indépendante dont l'existence a été véritablement un défi. Un défi parce qu'à peine née, cette République va surgir autour d'elle toutes sortes d'ennemis. Bref, une histoire tragique, mais brève.
Mais... Oui, mais pourtant, dans cette courte période, il y a quand même plein de bases qui ont été posées pour la constitution de l'État arménien. Il y a par exemple la langue officielle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément ?
Comme élément, le fait que on crée de toutes pièces un État, c'est une expérience quand même assez extraordinaire. Donc il faut créer, effectivement établir l'arménien comme une langue officielle, alors que dans ce pays, on parlait d'un territoire qui était anciennement dans l'Empire russe, donc la langue administrative c'était le russe. C'est l'arménien, il faut créer une monnaie, il faut créer une université, il faut des universités. Il faut créer une armée, des écoles, il faut une innovation quand même extrêmement intéressante, donner le droit de vote et le droit de vote aux femmes. Donc en 1918-1920, le droit de vote est accordé aux femmes, c'est-à-dire, 25 ans avant que la chose se produise en France, par exemple, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez qu'il y a des innovations tout à fait intéressantes et qui sont dues au fait que les leaders de cette République sont pour la plupart d'entre eux, des... d'anciens révolutionnaires qui avaient côtoyé des tas de courants d'idées très révolutionnaires et progressistes qui étaient très variés entre l'Empire russe et l'Empire ottoman. Et puis l'autre innovation, c'est d'établir Yerevan comme capitale de ce nouvel État arménien, alors que cette ville, auparavant, ce n'était pas du tout une ville qu'on aurait prédisposée à avoir un tel statut. Alors, il faut dire que dans l'histoire arménienne, au cours des millénaires, il y a eu au moins 12 capitales, donc 11 capitales. Donc, Yerevan n'était que la 12e, en quelque sorte. Mais elle n'avait pas de prédisposition particulière, donc il a fallu créer un urbanisme, inventer une architecture, inventer et camper le décor, le théâtre de la nation. Est-ce que la ville de Yerevan, jusqu'à aujourd'hui, détient comme forte valeur émotionnelle ?
Et après cette courte période de 2 ans, l'Arménie passa sous la bannière de l'URSS de 1920 jusqu'en 1991, notamment parce qu'il existait ce discours selon lequel la perte de souveraineté était préférable à l'annihilation totale turque. Et quel effet la période soviétique eut sur la culture arménienne et sur la musique arménienne ?
Alors, la période soviétique est très longue, de 1921 à 1991, donc on ne revient pas sur les circonstances qui ont fait que finalement le Caucase a été intégré à l'Union soviétique. Donc, la période soviétique sur la culture arménienne a des effets très divers, parce que à la fois, il y avait ce moule très pesant d'un État totalitaire et d'un État totalitaire communiste qui, de plus, était centré autour de Moscou, et donc où la russification a quand même joué un rôle important. Si ce n'est de la langue, au moins des mentalités, si vous voulez. Et d'un autre côté, puisque vous parlez de la musique, eh bien justement, la culture soviétique avait quand même de quelques bons côtés. Et parmi les bons côtés, il y avait aussi cette idée que les arts, et en particulier la musique, la danse, etc., devaient être accessibles à tous. Donc il y a eu, à mon avis, une très grande promotion de ces disciplines artistiques. Alors évidemment, de manière peut-être... académique quand il s'agissait d'art officiel, mais enfin il y a eu quand même une très très grosse promotion de la musique classique, de la musique traditionnelle, de l'opéra. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure l'opéra de Yerevan quand même un opéra très fameux qui a été édifié par l'architecte Alexandre Tamanian, qui en fait a conçu à peu près toute la ville. Donc à l'époque soviétique, il y avait une très forte promotion de cette culture. Alors, classique, mais dans laquelle on injectait évidemment aussi la musique contemporaine de l'époque, dès lors qu'elle était, admise. Vous avez mentionné tout à l'heure le compositeur Aram Khachatourian, qui est l'un des représentants, si vous voulez, de ces grands compositeurs soviétiques, alors lui, arménien, utilisant des motifs, c'était la danse du sabre tout à l'heure, enfin utilisant des motifs issus du folklore et de la musique traditionnelle dans le cadre d'une musique plus académique ou symphonique. Bon, tout ça, c'était possible en Union soviétique parce que l'art et la musique étaient encadrés au sein d'unions professionnelles qu'on appelait l'Union des compositeurs, et dans lesquelles tout ça était encadré. En même temps, le public... Oui, on pouvait suivre tout un cursus au conservatoire. On pouvait aussi avoir des places à l'opéra, enfin, très facilement. Tout ça était très accessible. Et ça a cessé, bien entendu, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Mmh. Alors, le revers de la médaille, c'est que cette culture-là, cette culture musicale-là, était une culture académique, jugée académique, et en tout cas qui faisait la promotion d'un certain type de musique. Mais alors, à partir des années, après la mort de Staline, et puis surtout à partir des années 60, 70 et 80, là, l'Arménie s'est ouverte aussi aux d'autres types de musique, alors plus influencée par l'Occident, alors avec un certain retard, bien sûr, mais le rock, le jazz, etc. Mmh. Évidemment, tout ça, ça a suscité un très fort engouement, au point que, il y avait une véritable scène de jazz à partir des années 80, et ce, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, parce que vous avez mentionné, par exemple, le nom du pianiste Tigran Amassian tout à l'heure. Mmh. Donc ça, c'est
justement
une réalité.
Justement, Tanine Termination, on va faire une petite pause musicale pour écouter un de ces morceaux. Et on se retrouve après. On écoute Areg Enmanouchak du pianiste arménien Tigran Amassian.
Thank you.
C'était Areg and Manouchak de Tigran Amassian de l'album The Bird of a Thousand Voices. Tigran s'est basé pour son dernier album sur un conte arménien qui raconte l'histoire d'un oiseau aux mille voix qui répand la paix dans le monde. Et j'ai pu interviewer Tigran Amassian il y a 2 semaines. On écoute tout de suite cette interview. Tigran, votre musique rend hommage à la musique arménienne folklorique. Quand avez-vous découvert cette musique?
I was around 14 years old. When I discovered folk music, Armenian folk music.
J'avais 14 ans quand j'ai découvert la musique folklorique arménienne et la musique folklorique en général. C'est grâce au jazz que je l'ai découverte, avec des musiciens comme Jan Garbarek, des musiciens de jazz scandinaves, Keith Jarrett, Ralph Towner.
It happened during one night, actually. My uncle took me to.
Tout s'est passé pendant une soirée. Mon oncle m'a invité à une fête de ses amis. Il y avait des albums chez eux de Jan Garbarek et de Keith Jarrett.
And I put it on, and I was just shocked.
Je les ai écoutés, j'ai adoré.
I loved what I heard. This music by Jan Garbarek and Ralph Towner. I could hear that they're improvising, but the musical vocabulary.
Je pouvais entendre qu'ils improvisaient, mais il y avait aussi beaucoup d'éléments folklore.
Bebop. There was a lot of folk music elements in there.
Et je crois que la musique traditionnelle arménienne vous a donné une autre vision de la musique.
Yeah, for sure. I mean. Any folk music in the world is really a source of.
Oui, toutes les musiques folklore sont des sources inépuisables d'inspiration.
It definitely changed my life for sure.
Et ça a changé ma vie de musicien.
You know, I mean, Armenian folk music, melodically and rhythmically, it can be.
Les mélodies et les rythmes de la musique folklorique arménienne peuvent être complexes.
World and that it gave me a lot.
Et j'ai adoré plonger dans ce monde.
About, you know, how creating melodies.
J'ai beaucoup appris sur comment construire une mélodie, you know, notamment avec des rythmes compliqués.
Complicated rhythms and made me grow for sure.
Et je crois aussi que le point commun entre le jazz et la musique arménienne traditionnelle, c'est l'improvisation.
Right. You know, folk music is was born for specific ceremonies.
Oui, vous savez, la musique folklorique est née avec des cérémonies, des tâches particulières.
Women wrote a lot of folk music that was connected to.
Les femmes écrivaient de la musique sur leur travail, faire le pain, battre les graines.
Like beating the grain, like the whole process of making the bread is all music composed by women. It's very inspiring, and this process basically of creation is.
C'est très inspirant, et ces créations sont des improvisations, des mélodies, mais aussi des paroles improvisées.
But also words. And then, you know, there is of course some individuals that end up being super talented and what they compose on the spot.
Et puis certaines compositions sont entrées dans la tradition.
Becoming like a tradition, and then somebody else makes that version different.
D'autres personnes en font leur version, comme c'est le cas aujourd'hui avec les standards de jazz.
Like for jazz standards, you know, like everybody plays jazz standards, but everybody. Does it on in their own way.
Et pour vous, quelle place prend la musique en Arménie et pensez-vous qu'elle soit un élément important de l'identité arménienne?
Yeah, I mean, there's a lot of music in Armenia, you know.
Oui, il y a beaucoup de musique différente en Arménie.
Weddings, like anything, you know, like.
La musique est partout, au mariage, aux enterrements, dans les rues.
Streets and it's everywhere, but. I feel like this ceremonial aspect of is
mais l'aspect cérémonial de la musique n'existe plus. Ce sont davantage des performances
still,
aujourd'hui.
You know, it's still wonderful because, you know, for example, like
mais c'est toujours super. Mes enfants vont à l'école maternelle et ils reviennent en chantant des chansons folkloriques que je ne connais même pas.
You know, I don't even know. or I've heard, but, you know. So there's this, obviously, there's
il y a une forte conscience musicale collective.
That's very strong.
Votre album L'oiseau aux mille voix se base sur un conte arménien. Ce conte fait-il écho à des événements géopolitiques récents?
Yes and no. These tales surface whenever there is like turmoil.
Oui et non. Ce genre de conte arrive dans des moments de guerre, de famine.
Would gather and tell these tales. Find.
Et les gens se rassemblent et racontent ces contes pour se consoler. Mais le principal message de l'histoire, c'est une quête spirituelle. C'est nettoyer les péchés de l'humanité.
Et comment vous avez vécu la prise du Haut-Karabakh en 2023 par l'Azerbaïdjan ?
A lot of lives were lost. A place can be cleansed of, ethnically cleansed of.
Beaucoup de personnes sont mortes. Un nettoyage ethnique s'est réalisé sur des personnes qui vivaient dans cette enclave depuis 5000 ans. C'était tragique et ça a même affecté ma santé.
Et est-ce que votre musique représente une forme de résistance, un moyen pour garder en vie la culture arménienne ?
From outside, it can seem like that.
D'un point de vue extérieur, on pourrait penser comme ça, mais ce n'est pas le cas. C'est parce que j'ai envie de m'exprimer par la musique. Alors oui, je fais de la musique folklorique, je fais partie de la culture arménienne, de cette communauté, et donc ma musique sonne comme elle est. Mais je ne mets pas de message politique dans ma musique.
Nous sommes de retour en studio avec Tallinn Termination et j'aimerais pour finir cette émission qu'on aborde ensemble l'actualité de l'Arménie. On voit aujourd'hui une relation différente entre la Russie et l'Arménie. Est-ce que l'Arménie cherche à s'éloigner de la Russie au nom de sa souveraineté ?
Bon, c'est difficile de parler au nom du pays, d'un pays, vous voyez, l'Arménie. Ce qui est certain, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Nicole Pachinian, donc ça s'est passé à l'issue d'une révolution qu'on appelle la révolution de velours, qui s'est déroulée en 2018, l'Arménie a changé plusieurs fois d'orientation, on va dire. Donc elle était souvent considérée comme étant traditionnellement alignée sur Moscou et traditionnellement alliée à la Russie. Il faut préciser d'ailleurs que la Russie possède des bases militaires dans la région et dans la ville de Gyumri, au nord de l'Arménie, dont je crois Tigran Amassian, que vous avez interviewé tout à l'heure, est originaire. Donc ces bases d'ailleurs sont toujours là et elles sont censées garantir la sécurité de l'Arménie contre d'éventuels agresseurs. Bon, mais enfin, la situation géopolitique, vous ne l'ignorez pas, générale, et pour l'Arménie encore plus, est plus que turbulente depuis quelques années. Et donc, le gouvernement a plusieurs fois tenté d'expérimenter d'autres alliances. Et dans le contexte de plus en plus tendu, voire même explosif de la situation internationale, notamment à partir il y a eu 2014, le début de la guerre en Ukraine, puis ensuite 2022, l'agression russe contre l'Ukraine, toutes les cartes ont été rebattues. Et l'Arménie, et le gouvernement arménien ou Nicole Pachinian a tenté de diversifier ses alliances et s'est mis à entretenir des relations aussi proches que possible, si l'on peut dire, avec les Occidentaux, l'UE, la France, les États-Unis, évidemment entraînant quelques turbulences avec la Russie, vous l'imaginez bien, dont les Arméniens considèrent qu'elle aurait dû agir plus en faveur des Arméniens lors de la guerre du Karabakh en 2020, puis en 2023. Bon, réalité, les choses peuvent s'expliquer là aussi, mais nous n'en avons pas le temps. Pardon.
Oui, et est-ce que une demande d'adhésion de l'Arménie, enfin, en tout cas, c'est resté un projet pour rentrer dans l'Union européenne, c'est un signal de cette mise à distance vis-à-vis du Kremlin ?
Alors, bon, si vous voulez, c'est un signal. Bon, c'est un signal. Mais bon, enfin, je ne sais pas, vis-à-vis du Kremlin, le Kremlin, si vous voulez, est plus d'abord soucieux de l'OTAN que de l'UE. Ça, c'est une réalité. Et justement, le Kremlin rappelle, pas forcément Poutine, mais par la voix de ses ministres des Affaires étrangères ou de ses différents porte-paroles, rappelle que bon, les États qui ont eu des problèmes avec la Russie sont ceux qui ont commencé à déclarer leur volonté de s'intégrer dans l'OTAN, chose qui, du point de vue de la Russie, est complètement inacceptable parce que ça ramène l'Alliance Atlantique aux frontières de la Russie. Bon, l'Arménie n'est d'ailleurs pas limitrophe de la Russie. L'Arménie, évidemment, ne demande pas à rentrer dans l'OTAN. Alors, ce serait d'ailleurs enfin, finalement assez étonnant parce que le grand pilier de l'OTAN dans la région, c'est la Turquie, justement. Et on ne peut pas dire que la Turquie est une politique très amicale à l'égard de l'Arménie. Donc, là, il faut quand même changer de logiciel, comme on dit. Donc, voilà. Alors, quant à l'UE, effectivement, je crois que Nicole Pachignan a annoncé la tenue d'un référendum. Bon, voilà, de même que la Géorgie s'est déclare toujours, d'ailleurs, pro-européenne, l'Arménie pourrait aussi avoir ce genre de, je dirais, ce genre de rêve, mais c'est un rêve qui, à mon avis, ne tient pas compte de la réalité géographique de l'endroit où justement cette République est née, si on peut revenir aux questions que vous m'aviez posées tout à l'heure. Ça a malgré tout un sens, la géographie. Ça a un sens encore plus pour l'Arménie qui est enclavée au milieu du Caucase, coincée entre la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Turquie. Je ne vois pas du tout comment ce pays pourrait intégrer l'UE. Alors cela dit, elle a bien sûr toutes sortes de partenariats, il y a de longue date des formats particuliers de partenariats et de relations avec l'UE, mais l'intégration plus récente, ça me paraît du côté arménien assez utopique. Alors sans parler bien sûr du côté utopique du côté de l'UE aussi, qui comme vous le savez quand même
Oui, une
traverse
crise.
oui, on peut le dire quand même au micro de Radio Campus, on n'a pas besoin de tourner
Autour
autour
du
du
pot.
pot. Et bon,
Mais
alors
t'as
donc
une
en tournant pas
domination.
autour du pot, on voit pas du tout comment est-ce qu'elle pourrait, voyez, admettre et absorber des États aussi enclavés, si fragiles que ceux du Caucase.
Merci, t'as une termination. L'émission touche
Merci
à
à
sa
vous.
fin. Merci pour votre présence. Vous pouvez écouter Tigran Amassian en concert à Paris au Trianon le 8 novembre. Merci à la réalisatrice de l'émission, Suzanne. Vous pouvez retrouver la playlist et cette émission sur le site de Radio Campus Paris et sur vos plateformes de streaming. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram pour continuer le voyage à travers la musique arménienne. On se quitte sur le nouveau morceau de Tigran Amassian, Wartime Poem, de son prochain album qui sortira en février 2026. C'était Sound Power. Rendez-vous le mois prochain, mardi à 21h. Très belle soirée sur Radio Campus Paris.